Aventure du tableau mystérieux. Comme une histoire de ce genre en amène une autre, et que chaque convive semblait très fort sur cette matière et disposé à mettre en scène tous ses parents et ancêtres, je ne sais combien d'étranges aventures nous aurions pu entendre si un gros écuyer, vieux chasseur de renards, qui, pendant tout ce temps, avait dormi d'un bon somme, ne s'était tout à coup réveillé avec un bâillement bruyant et prolongé. Ce bruit rompit le charme. Les fantômes s'évanouirent comme si c'eût été le chant du coq, et il y eut un mouvement général pour aller au lit. « Et maintenant, à la chambre ensorcelée !» dit le capitaine irlandais prenant sa chandelle. « Mais qui sera le héros de la nuit ?» dit le gentilhomme à la tête dépouillée. « C'est ce que nous verrons demain, » dit le vieux gentilhomme enlonné. « Celui qui sera pâle et défait aura vu le spectre. »« Bien, bien, messieurs, » dit le baronnet. « Il y a plus d'une vérité de dit en riant. » Au fait, un de vous passera la nuit dans une chambre. Quoi ? Une chambre ensorcelée ? Une chambre ensorcelée ? Et je réclame l'aventure ! Et moi, et moi, et moi ! S'écrièrent une douzaine de gaillards parlant et riant à la fois. Non, non, dit mon hôte, il y a, dans une de mes chambres, un secret dont je veux faire l'épreuve. Ainsi, messieurs, personne de vous ne saura qui a la chambre en question jusqu'à ce que les circonstances le révèlent. Je ne veux pas le savoir moi-même. Mais je laisse cela au hasard et aux dispositions de ma ménagère. Au reste, si vous le permettez, je ferai observer, pour l'honneur de la maison de mes pères, qu'elle contient à peine une chambre qui ne mérite d'être ensorcelée. Alors nous nous séparâmes, et chacun se retira dans la chambre qu'on lui avait assignée. La mienne était dans une aile de la maison, et je ne pus m'empêcher de sourire en remarquant sa ressemblance avec ces appartements merveilleux décrits dans les contes du souper. Elle était vaste et obscure, décorée de portraits noircis, d'un lit d'ancien damas avec un ciel assez majestueux pour servir d'ornement à un lit de parade, et de meubles massifs à la mode antique. Je tirai près de la cheminée un vaste fauteuil à roulettes et le feu, et je restais à le regarder et à songer aux étranges histoires que je venais d'entendre, jusqu'à ce que, cédant partie à la fatigue de la chasse du jour et partie au vin et à la bonne chère de mon hôte, je m'endormisse sur ma chaise. La gêne de ma posture rendit mon sommeil troublé et me livra à toutes sortes de rêves bizarres et terribles. Alors mon dîner et mon souper conjurèrent contre mon repos. J'étais tourmenté par une épaisse tranche de mouton. Un plum pudding pesait comme un plomb sur ma conscience, la lunette d'un chapon me remplissait de pensées horribles, et une cuisse de poularde parcourait mon imagination sous mille formes infernales. En un mot, j'eus un violent accès de cauchemar. Un mal étrange, indéterminé, semblait suspendu sur ma tête sans que je puisse le prévenir. J'étais oppressé de je ne sais quoi de hideux et de terrible sans pouvoir m'y soustraire. Je me sentais endormi et tâchais de m'éveiller, mais chaque effort redoublait mon supplice jusqu'à ce que, haletant, me débattant, près d'étouffer, je bondisse, me dressant sur ma chaise et m'éveillant. La lumière placée sur la cheminée était presque consumée. La mèche s'était divisée et la cire, en coulant de mon côté, s'était étendue en longues nappes. Le flambeau, ainsi en désordre, jetait une flamme large et brillante qui couvrait d'une vive lumière un tableau placé au-dessus de la cheminée et que je n'avais pas encore aperçu. Ce n'était qu'une tête, ou plutôt une figure, dont les regards semblaient fixés sur moi avec une expression qui faisait frémir. Elle n'avait pas de cadre, et au premier coup d'œil, j'eus peine à croire que ce ne fut pas une tête animée qui sortit du noir panneau de chêne. Je restai assis à la contempler, et plus je la contemplais, plus j'en étais tourmenté. Jamais encore aucune peinture ne m'avait fait une telle impression. Les émotions qu'elle me causait étaient étranges, impensables. Elles ressemblaient à ce que j'ai entendu conter les yeux du basilic, ou à cette mystérieuse influence des reptiles appelée fascination. Je passai à plusieurs reprises ma main sur mes yeux, essayant, comme par instinct, de dissiper l'illusion, mais sans succès. Je regardais d'autres tableaux placés autour de la maison pour voir s'ils produiraient le même effet. Quelques-uns étaient assez hideux pour le produire, si la laideur seule du portrait en avait été la cause. Mais non, mes yeux les parcouraient tous avec une complète indifférence. Et au moment où ils rencontraient ce visage placé sur la cheminée, une commotion électrique semblait parcourir tout mon corps. Les autres tableaux étaient sombres et ternis, mais celui-là seul semblait sortir en relief de la boiserie unie avec une merveilleuse vérité de coloris. L'expression était celle de l'agonie, l'agonie d'une souffrance aiguë, mais ses sourcils froncés étaient menaçants et quelques gouttes de sang le rendaient plus hideux. Et cependant, ce n'était pas tout. Il y avait quelque horreur de l'âme, quelque antipathie inconcevable réveillée par ce tableau et dont mon cœur était déchiré. J'essayais de me persuader que tout cela était chimérique, que mon cerveau était troublé par les fumées du vin de mon hôte, et peut-être aussi par les récits bizarres qui avaient suivi le souper. Je résolus de dissiper ces vapeurs. Je me levai, parcourus la chambre, fis claquer mes doigts. Je m'efforçais de me remettre. Je poussai des éclats de rire. C'était un rire forcé, et l'écho de la vieille chambre le répéta à mon oreille effrayée. Je m'approchai de la fenêtre, je m'efforçai de distinguer le paysage à travers les vitres. De toutes parts, une nuit épaisse et la tempête qui grondait au dehors. Et en écoutant le vent mugir au milieu des arbres, j'aperçus ce maudit visage répété dans un panneau de vitre. La réflexion même en était terrible. Comment triompher de ce malheureux accès de nerfs? Car j'étais alors convaincu que ce n'était autre chose. Je résolus de ne plus m'efforcer de regarder ce tableau, mais de me déshabiller à l'instant pour me mettre au lit. Je commençai donc à me déshabiller, mais sans pouvoir m'empêcher de jeter de temps à autre un regard sur le portrait, et un seul regard suffisait pour me déconcerter. Lors même que je lui tournais le dos, l'idée seule de cette étrange figure placée derrière moi et regardant mon épaule m'était insupportable. J'ôtai mes habits, je me jetai dans mes draps, mais ses yeux étaient toujours sur moi. Je les voyais dominer mon lit et pendant quelque temps, je n'en pus détourner les regards. Mes nerfs s'étaient irrités au dernier point. J'éteignis la lumière, je m'efforçais de dormir, toujours en vain. Le feu, jetant dans la chambre une clarté incertaine, laissait néanmoins le tableau dans une obscurité profonde. « Quoi ?» me disais-je. « Serait-ce là, cette chambre mystérieuse dont parlait notre hôte ?» J'avais pris ces paroles pour une simple plaisanterie. Aurait-elle un sens véritable ? Je regardais autour de moi. L'appartement, éclairé par une faible lueur, avait toutes les qualités requises pour une chambre ensorcelée. Il commença à offrir d'étranges images à mon imagination égarée. Les vieux portraits devenaient de plus en plus pâles, de plus en plus noirs. Les raies d'ombre et de lumière répandues sur les meubles les plus élégants leur faisaient prendre les formes les plus bizarres. Une grande armoire de structure antique, garnie de cuivre et brillante de l'éclat de la cire, commençait à devenir terrible. « Eh bien, me disais-je, suis-je donc le héros de la chambre fantôme? Suis-je réellement sous l'influence d'un charme ou est-ce quelque invention de mon hôte pour égayer la compagnie à mes dépens ?» L'idée d'être tourmenté toute la nuit par mon imagination et bafoué le lendemain sur mes yeux hagards était insupportable. Mais cette idée même suffisait pour produire cet effet et aigrir encore mes nerfs. « Et non, me dis-je, c'est impossible. Comment mon digne hôte eût-il pu imaginer que moi, ou tout autre, nous eussions pu être ainsi tourmentés par un simple tableau? C'est mon imagination malade qui me tourmente ainsi. » Je me tournais, je changeais de côté pour tâcher de m'endormir, mais toujours en vain. Quand on ne peut s'endormir en restant tranquille, il est rare qu'on en vienne à bout en s'agitant. Le feu s'éteignit peu à peu et laissa la chambre dans l'obscurité. Toujours, l'idée de cette étrange figure, les yeux fixés sur moi dans les ténèbres, me poursuivait. Bien plus, les ténèbres mêmes semblaient redoubler ses horreurs. Il semblait que j'eusse un ennemi caché veillant près de moi dans l'obscurité. Déjà, au lieu d'un seul tableau pour me tourmenter, j'en avais 100. J'en imaginais de toutes parts. « C'est là, me disais-je, et là, et là !» Partout, je voyais ses yeux menaçants se fixer, s'attacher sur moi. Non, si je dois souffrir cette bizarre et funeste influence, mieux vaudrait faire face à un seul ennemi que d'être ainsi poursuivi par son image 1000 fois répétée. Quiconque a ressenti un état d'agitation nerveuse sait que plus l'accès dure, plus il est terrible. L'air même de la chambre semblait affecté par la présence funeste de ce tableau. Je le voyais suspendu sur ma tête. Je sentais presque ce visage terrible s'approcher de ma figure. Je croyais respirer son haleine. « C'est insupportable !» m'écriai-je enfin, m'élançant de mon lit. « Je ne puis rester ici plus longtemps. Je ne ferai que m'y agiter toute la nuit, me donner moi-même l'air d'un spectre et devenir le héros de la chambre ensorcelée et le sujet de leur raillerie. Quoi qu'il puisse arriver, je quitte ce maudit appartement et vais chercher ailleurs un gîte. » On ne peut qu'en rire, à tous égards. Et c'est ce qui ne peut manquer de m'arriver si je passe une nuit sans sommeil et vais leur montrer le matin un visage blême et défait. Je faisais tous mes calculs à demi-voix en m'habillant à la hâte. Quand j'eus fini, je sortis brusquement de la chambre et descendis au salon. Là, après avoir essayé 2 ou 3 meubles, j'arrivai à un sofa et m'y couchai, décidé à y bivouaquer toute la nuit. À l'instant où je me trouvais loin de cet étrange tableau, le charme sembla rompu. Toute son influence était passée. J'étais convaincue qu'elle était bornée à la redoutable chambre, car, par une précaution presque machinale, j'avais tourné la clé en fermant la porte. Je revins donc bientôt à un état de repos et de calme. De là, je tombai dans l'assoupissement et enfin dans un profond sommeil dont je ne m'éveillai que lorsque la suivante, avec son balai et ses chants du matin, entra pour mettre la chambre en ordre. De là, je tombai dans l'assoupissement, et enfin dans un profond sommeil dont je ne m'éveillai que lorsque la suivante, avec son balai et ses chants du matin, entra pour mettre la chambre en ordre. Elle s'étonna de me trouver couché sur le sofa. Mais sans doute, des accidents de ce genre n'étaient pas rares après les dîners de chasse, dans l'établissement du garçon de son maître, car elle continua sa chanson et sa besogne et cessa de faire attention à moi. Une répugnance insurmontable m'empêchait de retourner dans ma chambre. Je me dirigeai donc vers le quartier du sommelier. Je fis ma toilette le mieux possible et parus des premiers au déjeuner. C'était un solide repas de chasseur et toute la compagnie s'y assembla. Quand on eut largement fait honneur au thé, au café, aux viandes froides, à l'aide qui garnissait la table en abondance, selon le goût de chaque convive, la conversation commença à s'animer de toute la vivacité et de toute la fraîcheur de la gaieté du matin. « Mais quel est le héros de la chambre ensorcelée? Qui a vu le spectre cette nuit ?» dit le gentilhomme en question en promenant ses yeux saillants autour de la table. La question mit toutes les langues en mouvement. Les railleries commencent, chaque figure est examinée, critiquée, chacun accuse et riposte. Plus d'un convive avait beaucoup bu, d'autres n'étaient pas rasés. Aussi y avait-il plus d'une figure suspecte dans l'assemblée. Seul, je ne pouvais prendre part à ces plaisanteries vives et enjouées. Le souvenir de ce que j'avais vu et ressenti la nuit précédente ne cessait de me poursuivre. Il semblait que ce tableau mystérieux me tint toujours enchaîné. Je croyais aussi que l'œil de notre hôte se tournait vers moi avec un air de curiosité. Bref, je sentais que j'étais le héros de la nuit et croyais que chacun allait le lire sur mon visage. Cependant, les railleries passèrent et aucun soupçon ne tomba sur moi. Je me félicitais d'y échapper quand un domestique entra et dit que le monsieur qui avait dormi sur le sofa du salon avait laissé sa montre sur un des coussins. Ma montre était dans sa main. « Quoi ? » dit le gentilhomme en question. « Quelqu'un a dormi sur le sofa ? Taïo, Taïo, un lièvre, un lièvre !» s'écria le vieux gentilhomme au nez flexible. Je ne pus m'empêcher de reconnaître la montre et me levai tout confus quand un vieil écuyer moqueur qui était mon voisin s'écria en me frappant sur l'épaule. « Morbleu, mon garçon, c'est toi qui as vu le spectre !» L'attention de la compagnie se tourna aussitôt sur moi. Si ma figure était pâle un instant plus tôt, elle devint bientôt rouge comme le feu. J'essayais de rire, mais je ne pus faire qu'une grimace. Les muscles de mon visage étaient contournés et résistaient à tous mes efforts. Il est facile de mettre en guetté une compagnie de chasseurs. Ce sujet fut une source inépuisable de raillerie et de gaieté. Et comme je n'ai jamais aimé une plaisanterie faite à mes dépens, je commençais à me sentir un peu piqué. J'essayais de paraître froid et calme et de cacher ma mauvaise humeur, mais la froideur et le calme d'un homme en colère n'en imposent guère. « Messieurs, » dis-je en frottant légèrement mon menton et faisant un vain effort pour sourire, « c'est fort piquant, ah ah, fort piquant. Mais vous savez que je suis aussi peu superstitieux que chacun de vous, ah ah. Et quant à la timidité, vous pouvez sourire, messieurs, mais j'espère qu'il n'est personne ici qui veut le faire entendre que... quant à une chambre ensorcelée... Je répète, messieurs, m'échauffant un peu en entendant chuchoter autour de moi, que, quant à une chambre ensorcelée, j'ai aussi peu de foi que personne de ces misérables contes. J'ai aussi peu de foi que personne à ces misérables contes. Mais puisque vous poussez la chose si loin, je dirais que j'ai trouvé dans ma chambre quelque chose qui me semble étrange, inexplicable, un éclat de rire. Messieurs, je parle sérieusement, je sais ce que je dis, je suis calme, messieurs. En frappant du poing sur la table. « Par le ciel, je suis calme. Je ne ris ni ne veux faire rire. » Les éclats de rire de la compagnie s'arrêtèrent avec des efforts dérisoires à la gravité. Il y a dans la chambre où j'ai passé la nuit un tableau qui a eu sur moi un effet singulier, incompréhensible. « Un tableau ?» dit le même gentilhomme à la tête dépouillée. « Un tableau ?» cria le narrateur au nez. « un tableau !» répétèrent une foule de voix. De toutes parts éclatèrent de bruyants éclats de rire. Je ne pus me contenir. Je m'élançai de ma place, jetai sur la compagnie un regard de fierté et d'indignation, et, les mains dans mes poches, je courus vers une fenêtre comme prêt à m'y précipiter. Je m'arrêtai court. Je regardais la campagne sans en distinguer un trait. Je sentais ma poitrine gonflée et j'étais presque suffoquée de colère. Mon hôte vit qu'il était temps d'intervenir. Il avait gardé son sérieux pendant cette scène et vint alors me protéger contre l'insultante gaieté des convives. « Messieurs, dit-il, j'aime la gaieté, mais c'est assez rire, et la plaisanterie de la chambre ensorcelée est au bout. Je dois maintenant prendre le parti de mon hôte. J'ai non seulement à le délivrer de vos plaisanteries, mais aussi à le réconcilier avec lui-même, car je soupçonne qu'il n'est pas fort content de ses sentiments. Mais avant tout, je dois lui demander pardon de l'avoir fait le sujet d'une sorte d'expérience. Oui, messieurs, Il y a dans la chambre où notre ami a passé la nuit quelque chose d'étrange et de singulier. Il y a dans ma maison un tableau qui possède une bizarre et mystérieuse influence et auquel se rattache une bien curieuse anecdote. C'est un tableau auquel différentes circonstances donnent bien du prix à mes yeux et, quoique j'ai plus d'une fois tenté de le détruire à cause des funestes impressions qu'il produit sur quiconque le regarde, cependant je n'ai jamais pu prendre sur moi d'en faire le sacrifice. C'est un tableau sur lequel je n'aime pas moi-même à lever les yeux et qui fait l'effroi de tous mes domestiques. Je l'ai donc relégué dans une chambre rarement occupée et je l'aurais fait couvrir cette nuit si la nature de notre conversation et cette fantaisie de chambre ensorcelée ne m'avaient donné envie de l'y laisser pour en essayer l'effet sur un étranger à qui l'histoire qu'il rappelle est complètement inconnue. Les paroles du baronnet donnèrent à toutes les idées une direction nouvelle. Tous étaient avides d'entendre l'histoire du tableau mystérieux et ce désir fit sur moi une telle impression que, sans me sentir piqué de l'expérience que mon hôte avait faite sur mes nerfs, je joignis ma voix à la requête générale. Le temps était mauvais et s'opposait à notre départ. Notre hôte saisit donc avec plaisir ce moyen de distraire sa compagnie et, tirant son fauteuil près du feu, il commença.